Raconter une ville qui se transforme et dans le même temps, comprendre ce que ça nous fait et ce qu'on peut y faire. Voilà brièvement notre ambition quand nous commençons, au début de l'été 2018, de fomenter une tentative d'intervention ethnographique sur Toulouse et en particulier la zone de la gare. 4 jours d'atelier avec 12 personnes, une cabine à raconter des histoires, un peu d'huile de coude et pas mal de questionnements plus tard, nous réalisons ici une sorte de point d'étape, sous la forme d'un collage sonore. On va pas mentir, il ne s'agit pas de relayer une parole, c'est nous qui faisons le montage de ce qui a été recueilli par de multiples mains, énoncé par de multiples voix. Nous participons plutôt à produire un discours, enfin on essaye. Nous prenons aussi la parole dans le cours de cette production, une parole à nous, qui n'est ni extérieure, ni neutre. Nous, c'est Ariella et Américo, nous écrivons à deux, je parle seul. Une anthropologue et un sociologue. Nous nous intéressons à comment se produit l'espace, comment se constituent des sujets politiques, mais aussi comment, avec les outils de la science sociale, nous pouvons favoriser pas seulement une compréhension, mais une réelle prise sur ce qui fait notre monde, avec comme boussole un souci pour les émancipations.
Bonjour, bonjour.
Ah lolo,
oui ok. Alors attends, mets-le. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Le micro ni trop près ni trop loin, donc on se met comme ça. C'est rouge, c'est bon, donc c'est bon, c'est rouge. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Toi, vas-y.
Bah moi, plus principalement, je monte dans les arbres.
Bah je joue au parc. Je reste avec des gens qui dans le bloc. Moi, dans le quartier, je reste avec mes copains, mes copines. Et genre, enfin, je sais pas, on va au Carrefour, on s'achète des bonbons et on mange.
Qu'est-ce que la transformation du quartier va changer pour toi? Qu'est-ce que la transformation du quartier?
J'ai pas compris.
Attends, mais parce qu'il va changer le quartier?
Alors, on va parler de Toulouse Euro-Sud-Ouest.
Alain Garès,
qui est
ex-président d'Europolia.
Je vais dire comme ça, à cause de tout ce qu'on a dit, une nouvelle dimension pour Toulouse. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est d'abord... Alors, on va bien sûr parler de la tour, mais c'est quand même d'abord un projet urbain, un projet qui, en principe, hein, c'est l'objectif qu'on lui a donné, qui va réellement apporter une autre dimension au centre-ville de Toulouse, et donc à Toulouse, dans sa dimension métropolitaine, disons, et on va voir comment.
D'abord, quelques éléments de décor. La zone du projet est située comme à cheval sur de multiples réalités. Intersection entre centre-ville et faubourg, entre quartier de gare et quartier résidentiel, quartier populaire et centre-ville en plein processus d'embourgeoisement. En lisière de plusieurs quartiers, Belfort, Bayard, Roquelaine, Chalais, Raisin, La Pujade, Bonnefoy, Arago, Maringo. Toulouse Euro-Sud-Ouest n'impacte pas un quartier bien défini avec sa vie propre et son identité. Le projet grignote, dévore plutôt, les abords de cet immense équipement industriel qu'est la gare.
On est aujourd'hui à peu près à 50-60 000 passagers par jour. Et en gros, sur la durée du projet, c'est-à-dire d'ici 2035 à peu près, c'est un triplement du trafic qui est prévu. Et ça, justement, quelles que soient les décisions prises en matière de LGV, ça inclut la LGV, mais la LGV Bordeaux-Toulouse, qui reste à faire, n'apporte là-dedans qu'à peu près 5% du trafic de la gare. Donc en termes de quantité, c'est pas dimensionnant. C'est dimensionnant sur le plan qualitatif, bien sûr, c'est un avantage formidable pour Toulouse, mais c'est pas ce qui va dimensionner le projet. Et donc ça, je le dis tout de suite, hein, si le projet n'est pas fait pour la LGV, c'est-à-dire que si la LGV se fait plus tard que prévu, ou même jamais, ça change en fait pas grand-chose à la dimension et à l'organisation de ce projet. Ça a commencé en 2007, exactement. Et là, on a commencé à se poser la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait donc, autour de cette transformation de la gare? Est-ce qu'on fait un projet vraiment juste limité à la gare? Est-ce qu'on fait un projet qui a une importance pour la ville, mais plus? Ou est-ce qu'on fait vraiment un projet de dimension métropolitaine, au sens du rayonnement régional et national? Et c'est cette troisième option qui a été prise. Donc, au départ, on a dimensionné le projet comme ça. Et on constate qu'on fait souvent dans notre profession, en matière d'urbanisme et d'aménagement urbain, 10 ans, c'est l'unité de temps. C'est pas, on ne compte pas en années, on compte en dizaines d'années. C'est-à-dire un projet peut prendre une unité de temps, deux unités de temps, trois unités de temps. Celui-là en prendra trois. Alors, on part d'un projet qui se fait sur 30 ans.
Ce projet est la réalisation concrète, dans le bâti de la ville, d'une idée, celle de la métropole. Loin d'être nouveau, ce projet prend racine dans le cœur de l'aménagement du territoire. de la mise au travail du territoire. Faire de l'organisation des flux, de la répartition des stocks, un outil de production optimisé, perfectionné. Un outil d'intervention concrète sur la vie des gens. La vie urbaine ici n'a que peu de place. Le présent des habitantes, leur vécu au ras de la rue, n'a pas de commune mesure avec la temporalité des aménageurs. Les enfants que nous entendons au début de ce montage auront entre 30 et 40 ans lorsque le projet sera terminé. Dans cette sorte de béance que creuse l'équipement ferroviaire au cœur de la ville, va s'installer un quartier d'affaires avec 300 000 m² de bureaux, soit 40 stades de foot où ne joueront aucun enfant, et 7 000 m² de surface commerciale nouvelle. Tout cela va impacter en profondeur les modes de relation des personnes qui habitent ou qui fréquentent ces endroits. D'ailleurs, les personnes qui habitent là vont être tout bonnement changées par la hausse du foncier. Nous arrivons là avec la volonté d'observer ce qui se trame dans ce changement. Comment est-ce que le pouvoir s'applique sur la ville et l'urbain ?
2017, ça a été les premiers travaux. Donc vous les avez vus, on les voit, on voit les embouteillages autour de la gare. Et voilà, en général, je dis, ben, ça a commencé là et il y en a pour 20 ans. Voilà. Donc, c'est pas très... Si j'étais élu, je dirais pas ça.
Si tu veux plomber là...
Voilà. Mais bon, en même temps, c'est pour la bonne cause. Ce qu'on estime, c'est que ce projet va se poursuivre jusque à peu près 2030, entre 2030 et 2040. Quoi. Si ça allait très vite, on aurait tout fini en 2030, mais je ne le crois pas. Il y aura forcément d'ici là une crise immobilière, quelque chose qui va tout arrêter, puis après ça va repartir. Mais en même temps, la leçon quand même, justement, tout ça, c'est que ça continue, même s'il y a des péripéties, des hauts et des bas, des moments où ça avance vite et d'autres où ça ralentit. Mais en même temps, quand il y a un vrai projet, un vrai portage politique, et quand même, c'est ce qu'il faut dire aussi de ce projet, depuis le début, ça fait déjà 10 ans, il y a eu des successions, il y a eu des changements politiques, mais il a toujours été porté, et il continue à l'être, parce que je pense que, quel que soit, il y a une espèce d'unanimité, hein, enfin, sauf quelques anarchistes, on peut dire, puisque c'est ça, qui voudraient que rien ne se fasse, mais globalement, il y a un vrai support.
L'enregistrement que vous entendez a été réalisé au cours d'une conférence destinée à des investisseurs, organisée par un commerçant de mobilier de bureau, forcément intéressé par la mise en production sur 20 ans de 300 000 m² d'espace à meubler. Les rires et les plaisanteries sur les crises immobilières, les péripéties et les quelques anarchistes, tout cela n'aurait pas lieu dans une réunion publique. Les élus eux-mêmes, d'ailleurs, sont moqués. Cette connivence, surprise par l'enregistreur, dérange. Elle semble proprement indécente. Il y a une assurance, une confiance qui semble presque caricaturée, caricaturale. L'introduction du tenancier des lieux qui organisait ce déjeuner select était elle aussi tout en finesse.
Alors moi je suis un militant de Toulouse, je suis un militant de la ville dans laquelle je fais le choix de vivre. Pour moi, l'urbanisme fait pas, il n'y a pas d'étiquette politique, bien sûr, il y a des gens qui font des choses, qui les font bien ou qui les font pas bien. D'ici quelques années, quand je me situerai là, j'espère que la vie me permettra de le faire, je pense que je verrai dépasser un truc ici qui va se positionner, qui devra normalement être la création d'un quartier autre que Victor Hugo, autre que les Carmes, autre que Saint-Cyprien, qui s'appellera Marengo. Donc j'espère que du coup, ce quartier-là va se grandir. Hein. Je rappelle souvent que la Tour Eiffel, tout le monde n'était pas d'accord avec, dès le départ. Voilà. Donc notre enjeu, c'est pas forcément de prendre parti, mais un peu, sur le fait qu'il faut que tout bouge pour que tout demeure.
Je me rappelle de ce cordonnier que j'avais rencontré sur l'avenue de Lyon. Il pleurait tous les soirs à l'idée de perdre sa boutique où il travaillait depuis des dizaines d'années. Sollicité pour parler à l'enregistreur, il disait ne pas pouvoir, ne pas savoir, à quoi bon. Il disait vouloir partir et que tout cela finisse. Il ne savait pas de quoi demain sera fait. Pour lui, l'unité de temps était la journée. Tous n'ont pas la ressource de se battre comme Pascal, rencontré dans une réunion de concertation, guillemets, qui devra bientôt être exproprié si rien n'arrête le projet.
J'ai acheté en 2005, moi. Et voilà.
13 ans.
Et t'es pas au courant, j'étais pas au courant de l'histoire. Du tout. Tant moi, j'en ai jamais acheté. Enfin, déjà, il n'y avait pas de droit de préemption, rien du tout. Il n'y a pas eu beaucoup de réunions d'ailleurs depuis le début. Hein. Enfin, moi, je suis allé, j'en ai loupé, je sais pas, Toulouse Métropole, j'en ai une, deux, là, c'est la troisième. Moi, j'ai eu une fois de la mairie, normalement, quand il y a des réunions comme ça, qui parlent du quartier, ils doivent informer les propriétaires, leur envoyer un courrier, quoi, pour leur informer qu'il y a une réunion. Moi, j'ai eu une fois un courrier, quoi. Et après, j'ai appris les réunions par bouche à oreille. Voilà. Normalement, ils sont censés t'informer, t'envoyer un courrier à la mairie. Les propriétaires, t'es censé être au courant de ce qu'il y a dans ton quartier, quoi. Voilà.
Est-ce que tu crois qu'ils veulent faire quoi dans du quartier, là ? Ça va devenir quoi ? Ça va devenir quoi, le quartier, pour toi, là ?
Un quartier ? Un quartier de merde, un quartier mort, un quartier pourri, voilà, un quartier de merde. Ça va devenir un quartier riche, avec des caméras partout, et le mec, il rentre chez lui, et voilà. Il va dans sa piscine à bulles, là, je sais pas comment t'appelles ça, là. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est tout, ce sera un quartier mort, pourri, bourgeois. Voilà. Et les ouvriers, ils auront le droit de venir le matin, balayer les trottoirs, faire la plomberie, la maçonnerie chez les gens. Et à 5 heures, il faut partir parce qu'il y a les huiles qui arrivent. Et ouais, ça fait tâche. Et toi, tu dégages au Mirail ou en Palo ou n'importe où, dans les cités, pour toi. Mais moi, je veux pas. Si je me suis battu, j'en ai chié, j'étais SDF. J'en ai chié, je me suis remonté dans ma vie. Tu peux pas savoir, je peux pas te raconter ma vie parce que ça a été un fait. Voilà, j'ai réussi à me remonter, j'ai bossé comme un chien, j'étais chef de chantier, j'ai réussi à rentrer intermittent du spectacle, j'ai fait de la machinerie, je jouais sur les deux, j'ai fait de la thune, j'ai réussi à avoir un crédit, alors que j'étais intérimaire intermittent du spectacle. Mais là, on te casse une vie, et je suis mort. Voilà, c'est tout.
Je les ai vus piller la ville à coups de pioche, à coups de fil, des bulldozers et des machines, des sept-deniers au centre-ville. Non, 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 ne me demandez pas,
ne me demandez pas
de cautionner cette politique-là. Non.
C'est un fait. Le projet ne suscite pas une opposition de masse, visible et structurée. Est-ce que pour autant il est accepté ? C'est aussi un fait que toute une série de dispositifs participent de cette situation. Dispositifs proprement policiers, et qui restent à comprendre. Policiers en tant qu'ils touchent avant tout à la gestion ordonnée des choses au gouvernement des villes. Les ingrédients sont un fort investissement de la communication, autant dans la rue à travers des affichages variés en termes de support et de mise en forme, dans les médias locaux qui multiplient les sujets élogieux sur le projet urbain. Des réunions publiques, des enquêtes, des concertations, des ateliers depuis 10 ans, il y a eu une activité constante autour du projet. Et pourtant, il est aisé de constater l'ignorance dans laquelle se trouvent les habitantes et les habitants toulousaines en général. Par ailleurs, le 13 octobre 2018, une manifestation organisée contre le projet TESO réunissait plus de 200 personnes, mais restait entièrement encerclée par une compagnie de gardes mobiles qui l'empêchait d'entamer le moindre déplacement. Pas une ligne dans les médias locaux sur cette manifestation. Comme le disait une participante, s'il y avait autant d'encadrement dans les EHPAD, on pourrait vieillir en paix. Nous avons voulu partir de là, de cette sorte d'indifférence ou de sidération qui fait que la ville est transformée par une dynamique qui apparaît comme implacable. Nous avons eu envie de produire un savoir sur cette transformation, un savoir qui, dans le même temps, fabrique une prise. Participer de l'émergence d'un discours collectif dans le même temps que l'on s'applique à comprendre ce qui se passe. C'est le sens de cette tentative que l'on nomme « intervention ethnographique ». Ethnographique dans la volonté de raconter le plus finement possible ce qui se passe, ce qui se transforme, ce que ça fait dans la vie quotidienne. Intervention, parce qu'on veut prendre part, parce que ça nous touche. Tenter de participer d'une mise en forme symbolique de cet espace. Faire émerger des voix diverses contre les discours hégémoniques du projet urbain qui saturent l'espace de représentation et les représentations de l'espace. Nous avons organisé avec Aurélien des Voix de Traverse un atelier d'ethnographie urbaine et nous avons rédigé une invitation en ces termes. Toulouse est transformée en profondeur, pour le meilleur ou pour le pire, qui le dira. L'objectif de ces 4 jours d'atelier est de se donner des outils pour voir et comprendre, les outils des sciences sociales, mais aussi le son et l'image. C'est aussi de construire ensemble du savoir sur nos lieux de vie, d'expérimenter une recherche collaborative, des manières de regarder, d'entendre, de documenter dans un espace précis, la zone qui entoure la gare. Cet espace est promis à de profondes mutations dans un avenir proche. Les comprendre, c'est aussi commencer à s'en saisir. Nous avons terminé ces 4 jours d'atelier par une restitution audio. En voici quelques extraits.
Avant de faire cette petite expérience du stage ethnographique, la vision que j'avais de Belfort, c'était celle d'un quartier très agréable à vivre, avec différents types de sociabilité, une diversité de personnes, etc. Et j'avais déjà aperçu un petit peu la dimension des différents niveaux de vie. Je vais vous donner une petite anecdote rapide. En fait, sur la rue Bayard, j'avais une amie il y a quelques années qui avait ses deux parents divorcés, sa mère qui vivait en haut de l'avenue Bayard dans un loft énorme, et son père qui vivait en bas de la rue Bayard dans un petit appartement. Et tiens, ça m'avait déjà beaucoup surprise de voir cette situation-là, en fait. Mais j'avais pas du tout vu ça comme allant dans le sens d'un processus, en fait. J'avais l'impression que bon, ben voilà, c'était comme ça. Donc finalement, là, je me suis rendu compte du nombre de projets qu'il y a et voilà, de la dimension générale de l'embourgeoisement de ce quartier. Ce qui m'a un petit peu surprise en parlant avec les gens, c'est que je me suis rendu compte que finalement, une bonne partie d'entre elles semblait assez indifférent au changement à venir. Voilà. Qu'ils n'avaient pas forcément l'impression que ça allait changer beaucoup de choses. Et puis que finalement, ils étaient peut-être... Alors voilà, ils étaient peut-être finalement pas tant que ça au courant des transformations à venir. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, dans la manière de percevoir la ville, le quartier qu'ils et elles avaient, c'était beaucoup une vision finalement de la ville assez utilitariste, les lieux de travail, la ville comme lieu de circulation, tout ça. Et que finalement, c'est un petit peu comme si ils et elles n'avaient pas le recul de se rendre compte que la ville, c'était aussi un lieu de socialisation dans quoi ils étaient prises.
Ce que j'ai découvert, moi, sur ces 3 jours, à travers les observations de terrain, c'est qu'on croise des gens quand on est plus au ralenti, qu'on n'a pas l'habitude d'observer ou d'écouter. Quand on les questionne, ils nous expliquent qu'ils ne connaissent pas les projets de transformation. Ma foi, ils trouveraient que ça serait chouette d'avoir des travaux pour réhabiliter les quartiers. Donc ils sont très optimistes quand on leur demande s'ils connaissent le projet qu'on leur propose. Ils ne savent pas. Quand on commence à leur expliquer, là, ils sont un peu ahuris. Mais au final, ils se posent quelques questions, se disant « Oh là là, ça va être terrible », mais sont un peu résignés.
Mais ça a besoin d'être embelli quand même. Ça a besoin d'être embelli. Peut-être pas de tout démolir comme ils veulent faire, mais voilà. Mettre les gens dehors. Moi, je suis auxiliaire de vie, je travaillais chez une dame. Voilà, ça fait 50 ans qu'elle est là, on la met dehors, puis voilà.
Elle va aller où, cette dame ?
Eh bien, je ne sais pas. Mais même à l'époque, ça fait quelques mois que je n'ai pas été, elle ne le savait pas. Mmh. Où on allait la parachuter. Donc, on est âgé, qu'il y a longtemps qu'on vit de quelque part. Vous enlevez de vos racines, c'est un peu dur. Voilà. Après, bon, si c'est plus joli, ça ira.
Et vous pensez que les gens auront quand même leur place dans ce quartier ? Justement, vous parlez de l'exemple de cette dame.
Je ne suis pas sûre, non. Je pense que ça va être beaucoup plus cher, beaucoup plus pour une classe peut-être un peu au-dessus.
ça quelque part ça vous inquiète ou comment vous le voyez? Ou vous voyez quand même comment vous le voyez?
C'est inquiétant, oui. Parce qu'on va être parqués où nous, les petits salaires là.
Mais malgré ça, vous dites que c'est bien parce que ça va être embelli.
Mais je pense qu'on peut embellir les choses sans mettre les gens dehors.
Voilà. Tout à fait, ce sont deux choses différentes.
Voilà. Il y a des endroits où ils ont refait les façades, les immeubles, même les appartements, sans pour autant mettre les gens dehors.
Dans un milieu, là, au moment où on prend ce son, les marteaux-piqueurs, les voitures, c'est hostile, c'est le chaos. On vit au milieu du chaos, les gens passent chaque jour, résignés, sans se poser de questions, et on subit. Et donc moi, ce que ça a apporté, mon changement de regard, c'est que je me rends compte, avant que les personnes se posent, prennent le temps de la réflexion, de se dire « mais on ne peut pas accepter ça », au final, en fait, quand il y a une notion d'effondrement aussi brutale qu'on est dans le chaos, les gens déconnectent et peuvent pas voir, peuvent pas. Ils sont un peu dans le déni en se disant non, mais on peut pas nous faire autant de mal et n'arrivent pas à être dans une action positive ou je sais pas, enfin, ou en tout cas de se mettre en alerte.
Avec l'atelier d'ethnographie urbaine, j'ai découvert un quartier très humain, avec un tissu de liens et de petits lieux à la vie dense. Et tout ça contraste avec l'aspect extérieur des rues de cette zone d'arrière-gare, un peu grise, au-delà des voies ferrées.
J'avais jamais mis les pieds dans le quartier, j'avais même jamais dépassé le canal. Je travaille au Faubourg Bonnefoy depuis un an, et en fait quand on l'arpente tous les jours, on finit par l'apprécier, c'est un peu comme un petit village.
Pour moi, l'image que j'en avais, c'est un quartier populaire, avec des habitations, loyers modérés, avec des choses qui se passent au niveau associatif.
Le quartier Bonnefoy, moi j'en ai toujours eu une vision d'un quartier glauque, pas vivant du tout. Pour moi, c'était surtout une grande rue, pleine de voitures et de bruit. Le projet Tézo, je ne connaissais même pas ce nom. Je savais qu'il y avait un projet de rénovation de la gare, ce que je trouvais plutôt une bonne chose d'ailleurs, mais je n'en connaissais pas l'ampleur. Par contre, je connaissais le projet de cette horrible tour, ça, monstrueuse et mégalo.
Oui, moi, je savais aussi qu'il y avait ce projet de tour surdimensionnée, aberrante. Et je savais que les environs de la gare allaient être rénovés dans le prolongement de la transformation de la rue Bayard.
J'avais rencontré des militants qui m'en avaient parlé. Ils organisent des cafés anti-Tézo. C'est là que j'ai pu m'informer, parce que sans ça, j'aurais jamais été au courant de ce projet. Je regarde la ville de façon complètement différente depuis qu'on a fait cet atelier. Et je porte beaucoup plus mon regard sur toutes ces maisons qui sont vides et qui ont été murées. Et j'avais pas bien capté le fait que le quartier allait être pris en sandwich comme ça. En fait, c'est pas tant les expropriations, mais le cadre dans lequel les gens vont vivre qui va lentement mais sûrement pousser les gens à partir. Et c'est sournois comme méthode, en fait. Et personne ne le voit venir. Donc, en fait, là, il faut informer et mobiliser. Et ça renvoie à cette question de responsabilité. Bon, en tout cas, il y a urgence, quoi.
Tous comme des roses, tous comme des clones, ouais. Tous hors des halls. Prétend être matière du rap, bulldozer en tête du Graal, terre promise la terre du rap.
Les tours sortent de terre, vont au cimetière, t'auras des fleurs. Tout ce que je touche se transforme en pierre, j'ai la main sur le cœur. Les briques s'empilent comme des Legos, noir et blanc mais rien d'élégant. C'est la crise, fume le filtre du mégot, été hiver, enfile les gants. La beauté des belles plantes est remplacée par des routes. On se plaint sur Facebook, mais heureusement ici c'est pas Beyrouth. Les murs sont pas à leur place, donc on répare quand on casse tout. Sors le marteau piqueur, on mange le mortier dans ton casse-croûte. On devient dealer, mais j'ai entendu dire qu'on coupe le shit au coudron de façon. Des barres d'immeubles, un commissariat, une flamme sous le chaudron, passons. Impuissant quand je vois mes petits frères en état d'arrestation. Dis-moi ce que ça change si je m'intéresse à la déforestation. Y'avait des yeux partout dans la forêt de planches-neige. Maintenant c'est des caméras, les grands chaînes sont des gratte-ciel. Les infos disent pas tout, c'est le plus important qu'ils s'attrègent. Maintenant c'est fait, on est là dans la merde et chacun trie la sienne.
Pousse comme des roses, tous comme des clones, ouais. Tous hors des halls. Se prétend être matière du rap, bulldozer en quête du Graal. Terre promise, la terre du rap.
Nous avons construit une boîte, de la dimension d'un photomaton. Une cabine que l'on peut démonter et transporter. aménagé comme l'intérieur d'un vieil appartement avec un banc et des coussins, des tableaux et un micro. Une ambiance cosy pour accueillir des récits. Une boîte pour que les passants et les passantes nous racontent leurs histoires. Un raconte-toi. Nous avons commencé par le placer au pied de la bureaucratie métropolitaine, sur la place de la Légion d'honneur. Dans cet espace qui préfigure le futur vertical et moderne du quartier qui doit pousser autour.
Alors, qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Tu fais quoi, toi?
Moi, je vends du petit pain.
Tu vends des petits pains?
Ouais.
Ils sont très bons, d'ailleurs.
Ouais.
Moi, je mange tes petits pains.
Bah, je travaille dans ce quartier. Je suis assistante sociale avec des personnes sans domicile fixe depuis plusieurs années maintenant.
Ça fait que 2 ans que j'habite dans le quartier, donc à côté de la médiathèque Cabanis. Donc, qu'est-ce que j'y fais? Bah, j'y habite. Je prends le métro pour aller travailler vers le quartier de l'Ardenne. J'y fais mes courses, je vais au marché et puis voilà, à peu près quoi.
Dans le quartier, j'habite dans le quartier. Je fais mes courses dans le quartier, je prends le métro dans le quartier. Je vais à la médiathèque et je prends le train quand parfois.
J'habite dans le quartier depuis plus de 20 ans, depuis que je suis arrivé à Toulouse. Bon, je m'y sens tout à fait à l'aise. On a réussi à préserver, du moins sur Jolimont, un côté très résidentiel, un côté très civique dans les comportements urbains. En plus, comme il n'y a pas d'urbanisme lourd, on peut encore vivre d'une manière tout à fait sympathique et très conviviale. Les habitants sont un peu toujours les mêmes, hein. Il y a très peu de mouvements.
Bah, c'est central, il y a la médiathèque à côté, ça c'est génial. Voilà, donc la médiathèque, et puis bon après la ville quoi, les librairies, etc. Les cinémas, bon bien sûr c'est central, j'aime bien bosser dans ce quartier, effectivement ça me plaît.
Alors comment je m'y sens? Eh ben, j'avouerais qu'au début en fait j'avais un peu une image du quartier de la gare qui n'était pas top. Et en fait, ben, au final, je m'y sens assez bien. Je me suis franchement adaptée. J'habite dans un petit immeuble où on se connaît à peu près tous. On est 8 locataires, donc ça, c'est sympa. Et puis, comment je m'y sens? Je m'y sens, malgré l'image qu'il peut y avoir, moi, je me sens assez en sécurité. À chaque fois que je traverse la place Chaban-Delmas, ben, en fait, on n'est jamais ennuyé. La boulangerie est sympa. Je connais maintenant les filles aussi, donc ça, c'est bien. Et après, comment je m'y sens? Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de lieux de convivialité. Je trouve que ça, c'est sous-exploité, c'est-à-dire un peu plus d'endroits où on peut se retrouver avec la terrasse. Parce que sinon, c'est forcément de l'autre côté du canal, vers Jean Jaurès, et là, on est déjà dans le centre-ville. Mais je pense qu'il y a des choses qui se montent.
Donc, il faut préserver, je pense, une identité très marquée, une identité culturelle très marquée. Matabio, Jolimont, Bonnefoy, il y a un côté un peu villageois. Donc essayez autant que possible de préserver ce point.
Je pense qu'il faut garder dans ce quartier l'esprit, dans les petites rues, l'esprit justement quartier où les gens se sentent dans un lieu qui est à dimension humaine. Voilà. Peut-être garder l'esprit petite rue et pas vouloir construire partout des nouvelles habitations, basse consommation, mais ultra modernes, au détriment des maisonnettes toulousaines en briques qui risquent parfois d'être abattues parce qu'elles ne sont pas assez rentables en termes de logement de personnes. On ne peut pas y loger autant de personnes que si on construit des bâtiments qui font 4-5 étages.
Moi, j'espère un peu plus de sécurité, ouais. Et un peu plus d'animation. Il n'y a pas assez de commerce, c'est un peu tristouné ce quartier-là, non?
Ouais, si,
un
si.
Un peu gris. Et comment tu vois le quartier demain? Bah, ça rejoint un peu la précédente...
Ouais, question.
Ouais.
Avec plein de monde qui s'amuse... plein de gardes autour pain. Quand même et plein de petits pains.
Excellent. Ben voilà, il est joli ce quartier, non?
Ouais.
Et voilà.
La transformation du quartier pour moi. Alors, Je trouve que d'un point de vue architectural, ce qui est fait au niveau de la mairie de Toulouse est assez sympa parce que, par exemple, ce qu'on peut voir du côté Vigry, c'est franchement canon. Il y a une cohérence dans ce qui est fait. Les Ramblas, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Par contre, après, ce qui m'effraie un peu, c'est la tour qui va être montée, qui va être très haute. La voie SNCF, enfin, normalement le projet SNCF qui va suivre. Et ça, je trouve que ça dépopularise vachement les quartiers. On va vers une aseptisation, alors que le côté populaire, comme on peut trouver, comme par exemple vers Arnaud Bernard, qui n'est pas du quartier, mais qui n'est pas loin, et je pense qu'il y a encore ici aussi, ça va se perdre, alors que c'est vecteur de vie et d'échange, et que. Et voilà, et je crains un peu une aseptisation et quelque chose d'un peu trop propre, un peu trop. Avec un peu moins de mélange, c'est ça qui va changer pour moi, alors que c'est ça que j'aime bien.
Maintenant, il y a un projet qui m'alerte un peu, c'est celui de la fameuse tour Occitane ou tour Occitanie qui serait installée à côté de la gare Matabiau. Je ne sais pas trop à quoi cela peut rimer. J'ai peur que ça casse complètement la visibilité. J'ai peur que ça donne, que ça écrase en fait tout ce qui est autour, que ça ne soit pas une véritable plus-value pour l'ensemble des habitants et pour notre ville.
Bah effectivement, la transformation du quartier. Voilà, vu ce projet-là, déjà les Ramblas, je comprends pas du tout ce projet. Je comprends pas pourquoi on fait ça, je comprends pas à quoi ça sert. J'ai pas compris le besoin qu'il y avait de ça. Et puis cette fameuse tour là dont on entend parler, bon, je crois que j'ai une idée en plus très partielle du projet, parce que moi j'ai connaissance que de la tour et je pense qu'il y a bien plus de choses que ça. Bon, je sais pas trop. J'ai peur qu'on veuille nettoyer ce quartier, et notamment le nettoyer des personnes à la rue. Et ça m'embêterait. Je trouve ça grave, en fait, de mettre l'argent dans des projets comme ça, là, de construction de tours, de bureaux, etc. Et de délaisser, finalement, les personnes qui en ont besoin. Bon, c'est des choix politiques. Voilà, donc c'est bien triste. Voilà, donc je sais pas, à l'avenir, on verra bien.
Le quartier, on voit nettement les transformations, hein, à tout point de vue. En fait, on est très inquiet pour demain, parce qu'on a l'impression qu'on bouffe l'espace public, voilà, qu'on nous impose plein de choses, en fait, qu'on nous impose, les gens nous imposent tel façon de s'habiller, tel vêtement, telle nourriture, parce que mine de rien quand même on nous mitraille avec des choses qui sont pas agréables, quoi. Bon, après là, on est inquiet parce que par rapport à la tour qui va être faite, on est beaucoup à être inquiet par rapport à ça, parce que nous on n'y voit pas, on voit pas ce que ça va nous apporter, en fait. Ça va changer quoi pour nous? Rien. Sauf que ça va changer le paysage et pas en mieux. On nous demande toujours plus, de donner plus, de participer, je sais pas quoi. On nous parle de concertation, il n'y a pas de concertation. Même si on est si on est bien dans son quartier, on est inquiet. On est inquiet, voilà, pour demain.
Il y a celles et ceux qui entrent et se racontent. Il y a toutes ceux et celles qui s'approchent mais qui n'entrent pas. Et puis surtout, il y a ceux et celles qui n'entrent pas et n'approchent même pas. Et qui pourtant sont nommés. Parce que ce sont des occupants, occupantes permanentes de la place. Les enfants disent les bourrés, les employés de la métropole, des personnes qui n'ont pas lieu d'être. Jamais vraiment compté, jamais vraiment pris en compte, toujours dans la catégorie usage déviant, ils-elles n'apparaissent pas dans les projections des architectes. Pourtant, ils-elles seront là, toujours, à n'en pas douter. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen pour faire une place à cette présence. Nous n'avons pas encore inscrit, autrement qu'en creux, par défaut, la réalité de ces personnes. leurs paroles, ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à vivre à cet endroit. C'est à faire et nous le savons.
Oui, qu'est-ce que tu fais dans le quartier ? Ben, je travaille dans le quartier, donc du coup, je travaille en face, dans le bâtiment de Toulouse Métropole. Comment tu t'y sens ? Pas terrible, je trouve limite sécure, et j'aime pas le travail ici. Bon, voilà, c'est la vérité. Qu'est-ce que la transformation du quartier va changer pour toi ? Pas grand-chose. Je pense que c'est vrai que ça va, oui, amener des voyageurs, tout ça, avec le train, là, le grand quartier. Et le quartier de demain, comment je le vois ? J'en sais rien, la tour et tout, là, ça va être pas mal, ouais, pourquoi pas, ça va être... ouais. Parce que là, c'est, ça manque de vie, Harry, pour moi, c'est mort. Désolé.
Je travaille à Toulouse Métropole. Comment tu t'y sens ? Donc, je m'y sens très bien, nous accueillons du public, voilà, nous renseignons les gens. Donc, s'il y a une transformation du quartier, ça serait bien que ce quartier soit un peu plus paisible, car je trouve que sur la place de la Légion d'honneur, c'est un peu perturbant pour les gens qui travaillent des deux côtés, et notamment des personnes qui sont sur cette place, qui n'ont pas lieu d'être et qui parfois sont très agressives. Donc comment je vois le quartier de demain, un quartier plus paisible et plus sain.
Moi je l'aime bien comme il est, donc
ouais. Ouais, moi aussi.
Je sais pas, voilà.
En vrai, ce qui serait stylé, c'est que la fontaine serait un peu plus longue.
Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, la fontaine
sera pas mal.
Plus haute encore, tu sais.
Ouais, mais après, plus haut.
Plus d'eau, après, c'est plus tôt.
Ouais.
Bah voilà. Non, moi je l'imagine bien.
Ouais, alors, autant un peu genre futur robot, tu
sais. Ouais, c'est ça, exactement. Autant le quartier Bonne Foi, j'ai pas trop par rapport à ça, je sais pas trop. Mais alors par contre, là, la médiathèque, tout ça, le Toulouse Métropole, ça, je pense que ça peut bien devenir futuriste. Je le vois bien comme ça, moi. Puis tu sais, c'est grand, c'est...
Ouais.
Y a des, c'est, tout est fait c'est en vitre, tu sais, c'est en vitre. C'est, ouais, donc il y a un petit truc design, technologie.
Petit côté design.
Imagine ça, ça tourne.
Non.
Nous sommes allés un peu plus dans une autre bordure de cette zone. Place Schumann, au centre de la rue Bayard, fraîchement rénovée, redessinée pour prolonger le centre-ville.
Moi, j'habite dans ce quartier, enfin plus ou moins, j'habite vers la médiathèque, donc c'est vraiment à deux pas, il y a juste à traverser deux boulevards, une voie ferrée et un canal, tout ça en 50 mètres. Et ce quartier, la Belfort, la gare et tout ça, moi j'y suis en fait un peu tous les jours, vu que il s'avère que bah, j'ai pas mal d'amis dans le coin, donc je vais les voir. Je travaille dans la rue Bayard. Donc je suis vraiment amenée à y être tous les jours.
J'habite dans le quartier depuis maintenant un an et demi. Je m'y sens vraiment bien par rapport à mes études qui sont à Basso-Cambo et mes différents stages. C'est pratique d'avoir les deux lignes de métro à côté. J'aime bien le côté populaire aussi du quartier.
Bah voilà, dans le quartier j'y suis, ça fait 2 ans et voilà, je m'y sens bien. Après Toulouse, j'y suis, ça fait à peu près 6-7 ans. Voilà, c'est le quartier où je me sens le mieux en tout cas. Voilà, c'est un quartier vivant, c'est un quartier avec beaucoup de masculinité, c'est un quartier, voilà, c'est un bon quartier. Comment je m'y sens ? Ben, je m'y sens très bien, je m'y sens mieux qu'ailleurs.
J'ai découvert le quartier Belfort en 2002, quand je suis allé au centre médico-social qui est situé rue Stalingrad. J'avais découvert ce quartier... qui semblait, qui me semblait un peu plus à l'époque un peu laissé à l'abandon, avec des sex shops qui aujourd'hui avec Internet font penser à des vestiges d'une époque révolue. À la place du restaurant LOL Café, à l'époque il y avait un bâtiment, le même bâtiment avec des trous aux fenêtres, enfin il n'y avait plus de fenêtres dans ce bâtiment. De mon souvenir de cette époque-là, souvent sur la place il y avait plus qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de dealers qui étaient souvent aux quatre coins de la place, et il y avait quelques prostituées aussi qui j'ai l'impression sont de moins en moins nombreuses avec le temps. J'ai toujours aimé me balader dans ce quartier. C'est un quartier où je me sens bien. J'aime les gens qu'on y croise. Ça tranche avec les autres quartiers bobos de Toulouse au centre-ville. Et je trouve qu'ici, on a la dimension d'un quartier populaire dans le sens noble du terme, pour moi. C'est-à-dire un mélange sociologiquement intéressant où, voilà, il me semble qu'il y a des immigrés, des gens qui touchent les minima sociaux, des travailleurs précaires, des salariés, enfin, voilà, moi c'est ça qui me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi l'arrivée du marché de Belfort le jeudi. C'est quelque chose que moi je trouve intéressant. Je trouve que c'est un chouette marché.
J'ai une sensation d'un quartier qui change, mais pas du tout pour le mieux. C'était un des derniers quartiers pour moi dans le centre-ville de Toulouse où il y avait un peu des choses non maîtrisées qui se passaient, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas tout le temps contrôlées. Hyper aseptisé, donc voilà, je sais pas, moi j'aime mieux parler de la rue Bayard comme la rue à la triple file. Alors ça peut être un peu énervant quand on conduit, mais en même temps ça donne aussi un peu d'air. C'était un peu une des toutes dernières poches comme ça où on pouvait se sentir un peu bien dans ce sens-là. Du coup, moi je me sens en ce moment vraiment un peu très ambivalent parce que je vois que tout change. Là on est place Robert Schumann. Donc il y avait une boulangerie qui faisait du très très mauvais pain, mais vraiment pas cher. Des très très mauvaises viennoiseries, mais quand même vraiment pas cher. Des sandwichs franchement pas terribles, et encore plus quand on mange pas de viande. Il y avait juste une espèce de mini tranche de gruyère là avec une sauce blanche, je ne sais trop quoi. Mais bon, c'était vraiment pas cher, du coup le midi ça faisait le job quoi. Et là à la place, il y a 3 semaines a ouvert un poissonnier branché cave à vin, je ne sais quoi, un truc qui ne désemplit pas, avec des personnes que je n'ai jamais vues dans ce quartier, si ce n'est y passer pour aller à l'agence immobilière ou pour se rendre à la gare. Du coup, pour moi, là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se transformer. En face de ça, il y a une boucherie qui donne l'air d'être d'un magasin de bijoux ou d'une agence immobilière, pareil. En face de ça, on a une boulangerie bio qui coûte très très cher et du coup qui rend impossible l'achat dont je parlais tout à l'heure dans son sandwich le midi. Bref, tout ça conjugué avec tous les projets qu'il y a autour de la gare et qui vont de pair avec la destruction de ce quartier quoi. Donc voilà.
Oui, j'ai remarqué qu'il y avait une transformation, de la gentrification, là ça devient un petit peu plus bobo, ce qui n'est pas forcément que négatif, mais moi je vais avoir des points positifs dans le sens où je suis contente qu'il y ait maintenant une boulangerie bio, que parce que c'est des commerces dans lesquels je me retrouve aussi, mais en même temps, moi, ce qui me fait, j'ai un peu peur que ça devienne un peu trop aussi bourgeois et un peu tout ça, que le côté populaire et vivant du quartier change.
Avant, le quartier, il était un peu bizarre, il était un peu, on va dire, un peu laissé pas à l'abandon, mais il était négligé un peu. Et maintenant, aujourd'hui, quand je le vois, avec la petite rue piétonne qu'ils ont faite, la place Bayard, Belfort qui est en travaux, ben là je me dis que ça va changer, ça va être les commerces, un vrai quartier vivant, un vrai centre-ville. C'est ça ce qu'on recherchait. Et là maintenant en fait ça commence à aboutir et voilà, ça fait plaisir.
La transformation du quartier me semble un peu inquiétante. Hein. Dans le sens où est-ce que les retombées de la transformation vont pas être la fin du quartier populaire de Toulouse, enfin de ce quartier que je pense être populaire, et va-t-il le rester? C'est-à-dire s'il y a une inflation des loyers, si les boutiques changent, si les commerces changent, si la rue Bayard devient une rue Alsace-Lorraine prolongée. Est-ce qu'il y aura toujours des petites boucheries halal? Est-ce qu'il y aura toujours la petite épicerie de quartier? Et surtout, est-ce que les pauvres vont continuer à pouvoir y habiter dans ce quartier et en ville en général? Parce que c'est le danger. Moi, c'est ce qui me fait peur dans la transformation du quartier. Après qu'un quartier se transforme, que l'urbanisme évolue, que les villes se construisent, oui. Mais dans quel but et pour qui surtout? Parce que si le quartier de la gare, avec la nouvelle rue Bayard, avec le nouveau quartier de gare, des bureaux, la tour devient une vitrine pour le tourisme avec des boutiques de luxe, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'un quartier populaire qui est aussi le quartier de la prostitution à Toulouse, enfin un des principaux quartiers de la prostitution à Toulouse, qu'il a toujours été peut-être ce quartier lié à la prostitution. Voilà, donc entre la nouvelle rue Bayard et les Ramblas, et les nouvelles Ramblas, plus la tour Occitanie, plus les bureaux, etc. Voilà, on aura du mal à me faire croire qu'on va garder l'identité d'un quartier, surtout quand c'est un quartier historiquement qui a une réputation un peu sulfureuse par rapport à son activité de prostitution. J'ai toujours pensé que la réputation sulfureuse du quartier était liée au fait que ce soit un quartier où il y a toujours eu de la prostitution.
Donc est-ce qu'on veut que des bars trop jolis dans le centre-ville et des banlieues dégueulasses ? Je sais pas trop, de toute façon, après c'est ni à nous, ni à la mairie en soi de décider, parce que de toute façon, les loyers augmentent énormément, que ces populations-là se retrouvent de fait écartées du centre-ville qui devient beaucoup trop cher. Mais il y a quand même une question de politique de la ville qui tous ces travaux coûtent cher, tous ces travaux ont un but, quoi. À un moment, la mairie a clairement dit les populations rebuts, on n'en veut plus, quoi. Est-ce que c'est réellement adapté de faire des politiques qui excluent une partie de la population historique dans un quartier et quand on veut se débarrasser des magasins, des kebabs, quoi, il y a quand même un problème. Parce que c'est bon, les kebabs. Non, mais voilà, j'espère que demain, le quartier sera toujours aussi différent, varié.
Le quartier, demain, c'est plus belle la vie.
J'espère qu'il y aura de la résilience et que ça restera un peu comme c'était avant, même si je sais très bien que ça a déjà beaucoup changé par rapport à ce que je connais maintenant, vu que ça fait que 5 ans que je suis dans le coin.
J'espère qu'on va garder le côté convivial et interculturel, on va dire, que je trouve agréable. Il y a des travaux sur la place Belfort, bah moi j'espère que ça va aussi devenir une place sympa où il y aura quelques bars et qu'il y a un petit peu plus une vie de quartier dans ce sens-là, un peu plus peut-être festif, parce que pour le moment c'est pas non plus le quartier très festif de Toulouse, et moi en étant jeune, j'ai bien envie que ce soit un peu plus festif.
Mais comment je vois le quartier demain, justement, c'est qu'on a du mal à l'imaginer dans la continuité qu'il est aujourd'hui, enfin pour moi. Comme j'ai déjà dit, les transformations à vitesse grand V, à tour de bras, font que ce quartier qui est populaire, est-ce qu'il le sera toujours demain ? Qu'on va vers des villes musées pour le tourisme où les salariés, les gens un peu plus démunis ne peuvent pas se loger. Donc j'ai du mal à voir le quartier demain, justement.
Les paroles recueillies par le racontoir s'adressent à nous. Personne n'y entre sans avoir discuté un peu avant, sans demander qui nous sommes, ce que c'est que cette boîte, et si c'est gratuit, et à quoi ça sert. Le dispositif suscite étonnement, curiosité. Animation, on s'adresse à nous directement. On perçoit aussi un autre type de destinataire, qui ne serait pas un auditeur radio par exemple, mais les personnes qui font la ville. Comme si on nous déléguait une parole pour que nous puissions en faire quelque chose. Comme si nous étions une courroie de transmission vers les politiques ou les décideurs. Du coup, dans les interventions, quelque chose qui ressemble à des doléances. Cela tient forcément aux questions qu'on pose, comment vois-tu le quartier demain, pousse à dire ce que l'on voudrait. Il y a aussi la position dans laquelle on se met nous-mêmes, avec notre boîte équipée en pleine place publique, donc forcément autorisée et un peu officielle, ce qui en fait n'est pas le cas. On retrouve d'ailleurs dans les paroles récoltées beaucoup de termes utilisés dans les espaces publics de discussion sur la ville. Le vocabulaire des urbanistes et architectes, celui des chercheurs. On utilise des concepts diffusés et autorisés comme gentrification, urbanisme lourd, aseptisation, comportement civique, dimension humaine, esprit, petite rue, ambiance village, identité de quartier. Au final, des fois, ça donne un peu l'impression d'un discours stéréotypé, un discours qui a du mal à émerger dans sa singularité. Le sentiment que nous avons est que nous nous trouvons face à un rapport d'impuissance, de délégation, entre les habitantes et les habitants, et la ville et sa construction. Il est difficile même de la raconter avec d'autres mots que ceux des aménageurs. Il est difficile de trouver des espaces pour se poser à la fois la question de ce que nous voulons et ce que nous pouvons. Difficile de produire une parole collective.
Et la transformation du quartier va changer pour moi. Peut-être le fait que ce sera en positif mieux relié au reste de la ville avec le passage de la deuxième ligne de métro. Mais en même temps, ça risque de transformer, de revoir à la hausse les prix du loyer dans ce quartier. Ça va certainement amener beaucoup plus de monde à circuler dans le quartier, que ce soit avec les voitures ou même beaucoup plus de piétons. Donc ce quartier risque de perdre ce côté calme, en tout cas entre la médiathèque et l'avenue de la Gloire, où c'est des petites rues, où il n'y a pas trop de passages. Voilà, donc un côté positif dans la transformation, puisqu'il sera mieux relié ce quartier, mais à la fois plus d'afflux de gens. Voilà, et comment tu vois le quartier de demain? Je vois un quartier qui essaie d'aller vers les attentes des gens qui habitent dans les mégalopoles. Je vois un quartier qui se veut novateur, mais qui... Voilà, novateur, parce qu'une grande tour Occitanie qui fera je ne sais plus combien, 180 mètres de hauteur, avec je ne sais plus combien d'étages, des centres commerciaux, hôtels de luxe, voilà. Ça sera un quartier qui va faire une belle carte postale de Toulouse, je pense, pour les arrivants... qui viendront par la gare.
Comment je me sens dans ce quartier? Eh bien, quand je suis chez moi, je m'y sens bien parce que, ben, d'abord, c'est un bel espace et puis après, c'est très calme et j'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'oiseaux, non pas en cage, mais dans le terrain vague qu'il y a derrière chez moi. Après, sur le reste, eh bien, je m'y sens très, très isolée parce que, ben, déjà, au niveau de ma classe sociale, moi, je suis plutôt au niveau financier. Du côté du prolétariat, au niveau et autour de moi, eh ben, j'ai vu la période de gentrification et donc l'implantation d'une classe moyenne un peu boboïsée. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois carrément des classes supérieures. Imaginez qu'au bout de ma rue, il y a déjà 5 ans, il y a une maison qui s'est vendue 1 million d'euros. Et l'euro n'a jamais calculé en centimes, donc vous voyez l'affaire. Alors, qu'est-ce que la transformation du quartier va changer pour moi? Bien. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? En premier lieu, eh ben, ça va encore augmenter du fric, quoi. C'est-à-dire que, ben, déjà, il va falloir que je paye dans pas longtemps, on le sent venir, le parcmètre pour ma voiture. Déjà, voilà. Rien que le fait d'habiter, il va falloir que je paye. Après, ben, il y a de moins en moins d'amis. Il y a zéro copain qui habite ici. Il y en a un ou deux, mais qui habitent dans le quartier. Ben, du fait de combien ça coûte pour se loger dans le quartier. Qu'est-ce que ça va changer aussi? Ça va changer que c'est propre dans un mauvais sens du terme. C'est-à-dire c'est cadré, léché, sécuritaire... ça j'aime pas. Après par rapport à mon pouvoir d'achat, ben, les cafés, bon, il y en a un qui vient d'ouvrir là, ça va, il est accessible, mais sinon les cafés c'est pas pour moi, c'est trop cher. Ben voilà, et puis après il va y avoir des bureaux de plus en plus. C'est pas un quartier dans lequel je m'y sens bien parce que d'un point de vue de ce qui m'entoure. Parce que moi, j'aime bien les endroits où il y a de la vie dehors, avec des gosses qui jouent, avec des vieux, avec des gens à qui on dit bonjour. Et là, franchement, c'est de moins en moins, quoi. De moins en moins de personnes avec qui j'ai envie d'avoir des relations. Et donc, ça va changer. Après, Apparemment, ils veulent mettre une espèce d'énorme centre commercial. Bon, déjà, la ville en soi, moi, je suis née ici. Je suis née il y a un peu plus d'un demi-siècle. Et du coup, je vois l'évolution et je trouve que ma ville est de moins en moins populaire. Et ça, j'aime pas, mais vraiment, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. De plus en plus sécuritaire, avec des caméras partout, avec je me sens observée et je sens que ça coupe complètement la vie. La vie qui pourrait s'installer dans les rues. Et puis, c'est vraiment... Oui, pour des personnes qui ont les moyens financiers. Et du coup, forcément que je ne me retrouve pas dans les magasins ou je ne me retrouve pas dans les cafés ou les endroits. Voilà, du coup, voilà, la ville, c'est de pire en pire. Comment je vois le quartier de même ? Ben, j'ai deux manières de le voir. La manière réaliste et donc pessimiste, je le vois de pire en pire, avec des espèces d'immeubles qui vont pousser de partout, avec, il y a l'esprit de gratte-ciel là, bon peut-être qu'on va l'empêcher, hein, mais quand même, cet horrible gratte-ciel qui va prendre l'espace visuel, qui va prendre l'espace aussi des gens qui vont sortir de là-dedans, que ce sera forcément des riches, en tout cas des gens de pouvoir. C'est-à-dire un quartier qui finalement ne sera pas fait pour moi, comme si j'étais une espèce d'exception qui est tombée par hasard là et qui n'a rien à y faire. Ça, c'est le quartier, ça, c'est la vision assez pessimiste. Et puis après, j'ai une vision optimiste parce que je me dis quand même, dans une société où on va vraiment vers le mur, comme ça, ça ne peut pas être huilé et puis aller jusqu'au bout du bout. Et donc, à un moment donné, ben, ça va changer. On va faire changer, on va gagner un peu du rapport de force. Et à ce moment-là, eh bien là, on va tout se réapproprier et on fera des jardins et on fera des cafés, des guinguettes, des balles populaires et on habitera dans les rues. Et ça, ouais, ça, voilà. Moi, c'est mon rêve. C'est comme ça que j'ai envie de voir mon quartier demain.
La plupart des sons que vous avez entendus dans ce montage, y compris les fonds sonores, ont été réalisés sur la zone par différentes personnes. Nous remercions toutes les participantes de l'atelier d'ethnographie urbaine, Dom, Emmanuel, Ludo, François, Jade, Kat, Lise, Valérie et les anonymes qui se sont prêtés au jeu du racontoir. Les sons de la manifestation du 13 octobre ont été réalisés par Ben de Canal Sud et l'entretien de Pascal a été réalisé dans le cadre du café Antithéson. Merci à Ariella et Aurélien, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible.